franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'idée républicaine en Angleterre, ce n'est pas un titre, c'est une question, c'est peut-être même une énigme. Mais où est-elle passée, l'idée républicaine en Angleterre? Voilà un pays qui, dès le XVIIe siècle, par deux fois, a stupéfié l'Europe par ses révolutions, qui a même assisté en 1649 à l'exécution de son roi, et qui, en 2011, conserve ses traditions monarchiques, les entourant même médias aidants, d'un apparat jamais atteint. L'invité de la marche de l'histoire aujourd'hui, Sylvain Bourmeau, bonjour.
Bonjour Jean.
Directeur adjoint de la rédaction de Libération, mais convoqué ici au titre d'anglomane. L'anglomane, c'est celui qui ne défend pas nécessairement les traditions de l'Angleterre, qui aime en l'Angleterre sa capacité d'adaptation.
Oui, sa capacité à s'inventer perpétuellement, à gérer au fond son héritage, sa tradition, mais toujours pour en faire quelque chose de nouveau.
Alors, dans une émission d'histoire, on va se mettre à la quête de la mémoire que les Anglais d'aujourd'hui conservent de l'idée républicaine. Vous allez nous expliquer peut-être que c'est l'idée républicaine un potentiel subversif qui revient à intervalles plus ou moins réguliers.
Oui, il y a des vagues, on peut dire, des vagues républicaines. Et on en a connu une, on a assisté à l'une de ces vagues il n'y a pas si longtemps. On peut dire, grosso modo, que cette dernière vague républicaine a vu le jour à partir des années 70, 77, je dirais, ce moment du jubilé de la reine Elisabeth, mais aussi le moment de la naissance du mouvement punk, par exemple, et on verra qu'il y a quelques relations entre les deux, et puis qu'elle a pris fin, que cette vague s'est terminée, qu'elle s'est en quelque sorte encastrée dans l'un des piliers de ce tunnel de l'Alma, dans lequel la voiture de Lady Diana, de Princess Diana, a terminé sa course. Et cette vague, elle aura duré 20 ans, cette dernière vague, et elle était forte, puissante, pas au point de reproduire ce qui s'est passé en 1649.
On finira donc en 1997, cette dernière période, ce dernier segment qui s'emboîtera dans les autres, il commence avec les Sex Pistols. Vous pouvez présenter peut-être le morceau qu'on entend.
God Save the Queen, morceau des Sex Pistols qui figurera en deuxième position sur les charts, les hit-parades britanniques au moment du jubilé de la reine et en dépit d'une part d'une grève des gens qui pressaient les disques et surtout d'une censure de la BBC.
Permettez tout de même, Sylvain Bourmeau, une émission d'histoire, de revenir à 1640, l'idée républicaine en Angleterre. Elle est plus ancienne qu'en France sur la question des crédits à accorder à la couronne, sur la question des libertés religieuses. Le Parlement anglais, qui est puissant depuis longtemps, s'oppose au roi Charles Ier jusqu'à déclencher plusieurs guerres civiles. Et à l'issue de la dernière, le souverain est condamné à mort par les parlementaires les plus jusqu'au boutiste, et exécuté en 1649.
Je crois qu'il est de mon devoir envers Dieu et mon pays de me faire connaître à tous comme un honnête homme, un bon roi, un bon chrétien. Je suis innocent. Réellement, je ne crois pas qu'il soit très nécessaire d'insister longtemps sur ce point, car le monde entier sait bien que ce n'est pas moi qui ai commencé la guerre avec les deux chambres du Parlement. Et Dieu, à qui je vais bientôt rendre compte de ma vie, mes témoins que je n'ai jamais empiété sur leurs privilèges. C'est le Parlement qui a commencé à empiéter sur les miens. Ne gâchez pas le tranchant de la hache, n'y touchez pas.
Ah, j'y pense.
Mes cheveux longs gêneront peut-être le bourreau. Donnez-moi le bonnet qui me sert pour la nuit. Allons, messieurs, marchons vite. Je vais combattre pour une couronne éternelle.
Oui, dans l'affaire, Charles Ier va gagner la couronne de martyr. C'est Michel Bouquet dans La caméra explore le temps. Télévision française, 1963, vous parliez, Sylvain Bourmeau, de la censure de la BBC. On pourrait raconter à la BBC les guerres civiles, l'exécution de Charles Ier.
Ah oui, la BBC ne s'est pas privée de le faire. Il y a eu, vous savez, c'est un pays dans lequel la fiction télévisée est reine. C'est un art à part entière et on a des productions de très grande qualité et qui s'emparent beaucoup de l'histoire britannique. Et évidemment, ces pages sont explorées au même titre que beaucoup d'autres de l'histoire britannique. Donc Oliver Cromwell a été incarné de multiples fois.
Alors Oliver Cromwell va succéder à Charles Ier. Après le roi, ce sera le Lord Protecteur, et là, ce sera pendant quelques années une république qu'on exprime en anglais avec le mot ambigu de Commonwealth. Alors, de Cromwell, qui va finir par mourir de tristesse parce qu'il n'a pas réussi à engager l'Angleterre sur la voie des saints qu'il imaginait, on parle encore beaucoup aujourd'hui ?
C'est une figure ambivalente, Oliver Cromwell. C'est une sorte de Robespierre britannique, pourrait-on dire, tout en précisant immédiatement que les révolutions britanniques n'occupent probablement pas dans l'espace public britannique contemporain la même place que peut occuper la Révolution française ici, chez nous. C'est une figure ambivalente, associée à la violence, associée à la terreur, associée au régicide, évidemment, mais en même temps, une figure à laquelle on peut se référer à d'autres moments, certains tentés par les républicanismes. Ce sera le cas plus tard, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, où il y a eu la résurgence de cette figure de Cromwell, à l'époque portraituré en working class hero, pour reprendre
un héros de la classe ouvrière,
le titre d'une chanson de John Lennon. Mais c'est vrai qu'on a fait de Cromwell voilà quelqu'un issu du peuple qui a fait tomber l'aristocratie, mais il y a toujours cette ambivalence parce que est associé à ça une violence qu'on n'aime pas trop regarder en face.
Robespierre, dans toute la région parisienne, c'est un buste, une station de métro. Il y a des bustes de
Cromwell. Il y a des statues à cheval équestre de Cromwell. Il y a des présences de Cromwell. Et puis il y a à Westminster, au Parlement, la trace quand même de ce régicide. Enfin, c'est à la fois totalement présent, absolument pas occulté, sans pour autant occuper la place centrale qu'on réserve quand même à... Par exemple, pourrait dire le tricentenaire de la deuxième révolution britannique en 1688, donc tricentenaire en 1988. Si on comparait ce qui s'est passé en 1988 à Londres avec ce qui s'est passé à Paris en 1989 pour le bicentenaire de la révolution française, ça n'a strictement rien à voir.
Alors la deuxième révolution, 1688, oui, parce qu'il y a eu celle-ci aussi, la glorieuse révolution. Le roi Stuart, Jacques II, remet le couvert, il veut imposer un absolutisme catholique que ses sujets et les parlementaires refusent. On fait venir un nouveau souverain, Guillaume d'Orange, et à partir de ce moment-là, c'est le peuple qui est de droit divin. Il y a une alliance entre la couronne et le Parlement qui se scelle sans république. Et la forme républicaine ne rencontrera plus la voie parlementaire.
Oui, il y a une sorte de dissociation étonnante. Et en même temps, c'est à travers ces révolutions, la première, la deuxième, qu'il faut immédiatement rapprocher aussi de l'écriture et de la publication de textes de philosophie politique, des deux traités, en particulier de John Locke, dont il faut préciser que Locke a commencé la rédaction avant même cette deuxième révolution. Et ce texte est lié à la crise politique dans laquelle se trouve la Grande-Bretagne à l'époque, de ce conflit des légitimités royales, populaires, parlementaires. Et c'est l'agencement entre toutes ces légitimités qui va être à l'origine de l'invention véritablement. Finalement, on peut dire, même pour aller vite, des démocraties occidentales.
Alors, pour le philosophe de très grande importance, John Locke, les événements s'emboîtent les uns dans les autres. C'est des contrats successifs. Il y a des précédents concrets qui sont suivis de conséquences. Il n'y a pas un acte de rupture fondatrice, comme le sera en France la Révolution française. Au fond, les républicains les plus radicaux, parce qu'il y en avait tout au long du XVIIe, en Angleterre, les niveleurs et autres, ils ont bien fait de s'embarquer pour les États-Unis et d'abandonner cette terre anglaise qui ne leur était pas très favorable.
Les passagers vont sur le Mayflower ?
Oui.
Une bande d'originaux ?
Oui. Ils veulent prier comme ceci au lieu de faire comme ça. Et sans s'agenouiller, ils prient en restant debout. La tolérance religieuse, voilà ce qu'ils demandent. Et pour ça, ils s'en iront au bout du monde, chez les païens.
Vous, là, votre nom ?
Samuel Fuller. William Button.
William Bradford. Ma femme.
Gilbert Winslow, j'arrive de Londres pour ne rien vous gâcher.
Pourquoi vous en allez-vous ?
Je pars parce que je n'ai rien de mieux à faire ici. Je veux aller voir moi-même s'il existe un nouveau monde ou si c'est seulement l'envers de l'ancien.
Oui, on peut dire que la révolution américaine, pour le coup, trouve son origine à naviguer, à traverser l'Atlantique, on peut le dire comme ça, mais elle va prendre une tournure différente. Là où en Angleterre, les choses se sont inventées progressivement, on bascule vers ce qui deviendra cette monarchie constitutionnelle, on invente progressivement à petits pas le parlementarisme, cette place centrale au Parlement. Aux États-Unis, comme ce sera le cas immédiatement après en France, c'est par une rupture, par une véritable révolution, qu'on installe un nouveau mode de légitimité politique. Mais néanmoins, je pense que c'est très important d'insister, et cet extrait de Mayflower est bienvenu, sur les liens qu'il y a entre tous ces moments d'invention politique, entre là où ça naît en Grande-Bretagne, ça va vers les États-Unis, ça reviendra vers la France, et puis après, ça ne cessera d'interagir, au fond.
Mais j'ai bien compris, Sylvain Bourbeau, que tout ne pouvait pas se passer comme en France. Néanmoins, alors, si on en vient à la recherche de l'idée républicaine au XIXe siècle, dans cette étrange Angleterre, nous, quand on voit le socialisme se développer, il est tout de suite républicain. Et le socialisme anglais qui existe au XIXe, qui va devenir le travaillisme à partir du début du XXe siècle.
C'est une des questions mystérieuses pour les historiens, pour les sociologues de la politique. Et elle me fait penser, puisqu'on parlait des États-Unis, à la fameuse question à laquelle un certain Zombart avait essayé de répondre pour les États-Unis. Pourquoi il n'y a pas de socialisme aux États-Unis ? On peut de la même façon se demander pourquoi il n'y a pas de républicanisme en Angleterre. Alors pourquoi il n'y a pas, ou plutôt pourquoi le républicanisme n'a pas triomphé, puisque on est néanmoins en train de parler de quelque chose qui a une réalité qui ressurgit de temps à autre, mais sans jamais pour autant, à aucun moment dans l'histoire britannique, depuis les deux révolutions du XVIIe siècle, se trouver en situation d'arracher une victoire ou de bousculer la monarchie. Donc pourquoi il faut regarder en particulier le XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, le moment où des grandes traditions républicaines s'installent. Vous avez trouvé, je parle encore trop de la France, mais c'est le moment où ça fait écho quand même. Il y a des échos à Londres de ce qui se passe dans la Commune de Paris. Et il y a des échos, évidemment, du côté des partis de gauche en gestation. C'est le moment où aussi s'invente autour du clivage de la question sociale de nouvelles formes d'organisation politique qui prennent en charge. Et pourtant, on ne peut pas dire, même malgré ces tentatives de faire de Cromwell un héros de la classe ouvrière, malgré ces tentatives de défendre la République, au fond, ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas jusqu'au moment où, et ça c'est assez tôt, où les travaillistes accèdent au pouvoir. Et à partir de là, c'est terminé, puisque
oui. Alors,
ils sont dans le système.
Les travaillistes accèdent au pouvoir partiellement, totalement, à la suite de guerres mondiales pendant lesquelles la monarchie a été à son zénith, parce qu'elle a incarné l'esprit le plus fédérateur, que ce soit la famille royale. George VI et la reine-mère Élisabeth se comportent peut-être mieux que certaines élites républicaines. En France, 45, raz-de-marée travailliste.
The Labour Party's
C'est Clement Attlee. La grande victoire du Parti travailliste prouve au pays qu'il est prêt pour une nouvelle politique afin de faire face aux conditions du monde actuel. Nous croyons que le travaillisme est la bonne politique et que le parti a les hommes pour la mener. Mais il n'y a pas de gauche travailliste républicaine ?
Il y a des franges du Parti travailliste qui, à certains moments, défendent des idées qui s'approchent du républicanisme ou vont jouer avec certains symboles. On peut prendre l'exemple d'une figure de la gauche radicale travailliste, Tony Benn, Anthony Benn, qui, avant de devenir ministre, il aura une très très longue carrière politique. Dans les années 60, sous le gouvernement de Wilson, était le patron de la poste britannique, le Post General Master, et avait caressé l'idée de supprimer des timbres poste britanniques l'effigie de la reine. Wilson, le premier ministre travailliste, s'y est fermement opposé. Wilson, qui entretenait d'excellentes relations avec la reine Elisabeth, comme avant lui, Clement Attlee, en 45, entretenait d'excellentes relations avec George VI, et comme avant lui, Ramsay MacDonald en entretenait d'excellentes avec George V. Donc, il y a eu, paradoxalement, si on regarde, de meilleures ententes entre les premiers ministres travaillistes et le souverain qu'entre les premiers ministres conservateurs et le souverain.
L'idée républicaine, c'est une idée de contre-programmation de France Inter aujourd'hui, mais quand même, vous tolérerez, Sylvain Bourmeau et chers auditeurs, cette archive de 1953, comment avoir de mauvaises relations avec Elisabeth II, à chacun des rites de passage qu'elle observe avec beaucoup d'apparat, elle incarne la continuité de la nation.
Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. 3 millions de spectateurs sont en effet debout sur le passage du cortège. L'abbaye de Westminster où depuis les plus anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre. Dans cet apparat médiéval, Elisabeth II va être consacrée par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de l'Irlande du Nord et des dominions d'au-delà des mers. Elle s'avance maintenant sous les voûtes de Westminster. Lentement, entre deux haies formées par les princes des plus vieilles familles d'Europe, les rajas de l'Inde, les rois d'Afrique et les cheikhs d'Arabie, elle marche vers le sanctuaire. Et voici l'instant suprême. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincellent plus de 1000 pierres précieuses. Il l'élève à la vue de tous et la pose sur cette tête de 27 ans. À ce moment, tous les pères se couvrent de leur couronne médiévale.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Sylvain Bourmeau, directeur adjoint de la rédaction de Libération, que je fais commenter ces sons du couronnement de 53. C'est le couronnement de l'impératrice en même temps que de la reine. C'est pour ça aussi que le républicanisme a des difficultés en Angleterre. Le système impérial, ça va mieux avec la monarchie.
Oui, d'ailleurs, vous rappeliez que ce n'est pas le mot « république » qui a été utilisé pour la première révolution, mais bien le mot de « commonwealth », ce même mot qu'on continue aujourd'hui, dans cette période post-coloniale, à utiliser pour désigner ces pays comme l'Afrique du Sud, le Canada, ils sont nombreux, hein, qui formaient l'ex-empire britannique et qui continuent d'avoir la reine comme souverain d'un point de vue constitutionnel, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on parle de la reine d'Angleterre, mais ce n'est pas que la reine d'Angleterre, selon l'expression française, mais bien le souverain de ce Commonwealth.
Alors la reine Elisabeth, elle a un règne qui va être aussi long que celui de Victoria, avec beaucoup de hauts et de bas, comme on a connu Victoria. Voilà, maintenant vous allez nous présenter, ça y est, le moment de protestation républicaine qui commence, bah, tenez peut-être par une chanson, vous êtes un grand spécialiste de la musique britannique, vous vouliez nous présenter là Kinky
oui.
Boots.
Oui, non, c'est parce que là, on va entendre la voix d'Honor Blackman, qui est cette première actrice qui a interprété le rôle féminin dans la fameuse série Chapeau melon et bottes de cuir, et qui est l'une des figures du républicanisme depuis une trentaine d'années. Grande actrice britannique, très célèbre, rendue célèbre par cette série notamment, mais pas seulement, et qui a enregistré un disque avec le héros de la série, Patrick Macnee, Kinky Boots.
Everybody's going for those kinky boots, kinky boots.
Kinky boots is the manly kind of fashion that you borrowed from the brutes.
Borrowed from the brutes. Kinky boots, fashion magazines say wear 'em.
And you rush to obey like the women in the harem.
Full length, half length.
Fully fashioned calf length.
Brown boots, black boots.
Patent leather jack boots.
Low boots, high boots.
Lovely lanky thigh boots.
We all dig those boots. Everybody's crazy for those kinky boots, kinky boots.
Honor Blackman, donc qui chante avec Patrick McNee, Kinky Boots. Honor Blackman parce que c'est l'une de ces figures qui sont plutôt à chercher du côté du monde des artistes, des intellectuels, qui portent la cause républicaine depuis un certain nombre d'années. C'est pas le peuple qui est républicain, qui est contre l'aristocratie. Ce sont plutôt les aristocrates culturels, on va dire, qui sont contre.
L'idée républicaine, Sylvain Bombeau, c'est une marque de distinction.
Oui, on pourrait dire ça. C'est une marque de distinction. Alors, il y a une tradition. Moi, ce qui me semble flagrant dans les années 70, c'est qu'on a entendu le couronnement de la reine en 52. C'est aussi l'avènement de la télévision, de ses retransmissions. Aujourd'hui, on n'est plus là. Aujourd'hui, on en est au live blogging. C'est une autre époque pour la famille royale. Mais 52, avènement de la télévision, il se passera 25 ans assez tranquille, presque, on peut dire, pour la reine, qui coïncide avec l'âge d'or aussi de la télévision. Et puis, 1977, c'est ce qu'on appelle le jubilé de la reine, donc le Silver Jubilé. On ouvre une ligne de métro à Londres qui s'appelle la Jubilee Line. Il y a un parcours. Quand on va à Londres, on peut encore voir ces plaques au sol qui indiquent le parcours suivi par la procession de la reine en 1977.
Et là, une protestation, alors.
Et c'est là que surgit, c'est concomitant, la vague punk en Angleterre. Elle a démarré en 76, mais 77, c'est l'année forte, l'année qui reste marquante. Il y avait ce disque des Sex Pistols qu'on a pu entendre au début de l'émission, God Save the Queen. Et on peut dater de ce moment-là, au fond, la montée en puissance. Ça correspond aussi à cette génération baby boom juste après, de la contestation de la royauté, qui se traduit dans la musique, mais aussi dans cette nouvelle génération d'écrivains. Je pense en particulier à quelqu'un comme Martin Amis, qui est un des grands écrivains, qui a commencé à publier ses livres en 74, ou à son ami l'éditorialiste depuis exilé aux États-Unis, Christopher Hitchens, par exemple, qui sont toujours aujourd'hui dans des textes enflammés contre la monarchie.
Martin Amis, il vient de déclarer, la famille royale, c'est des philistins. Toujours le thème de la distinction. C'est le vulgum pecus, le peuple qui aime bien la monarchie, d'après les républicains.
Oui, cette idée de philistin, cette idée aussi de gaspillage des finances publiques. Bon, ils s'en amusent beaucoup, tous. Ça, c'est le versant, je dirais, au fond, culturel de la contestation monarchique. Mais il ne faut pas le négliger aussi, un versant plus directement politique de la contestation de la monarchie. Et donc, de défense de la République pour les plus extrémistes, mais en tous les cas, mouvement pour la réforme constitutionnelle et qui n'est pas sans lien avec la contestation de la monarchie. Par exemple, on veut abolir les lords héréditaires. Ça a à voir quand même avec une forme de système féodal encore en Angleterre. Donc, on voit surgir, au moment où la gauche britannique, qui sort de ces années difficiles, incarnées par la fin de James Callaghan et donc l'arrivée au pouvoir des conservateurs, qui vont y rester très longtemps, il faut rappeler que Margaret Thatcher puis John Major ont gardé le pouvoir extrêmement longtemps. Et la gauche cherche à se réinventer à partir du début des années 80. On voit la naissance de ces partis social-démocrates qui vient concurrencer le Parti travailliste. Le Parti travailliste lui-même se transforme avec ses idées de réforme constitutionnelle, sans jamais oser tout à fait prononcer le mot de République, sauf pour quelques-uns
isolés. Par exemple, les animateurs du mouvement République, dont voici l'un d'entre eux qui revient à la faveur des Noces royales d'avril 2011.
Le mariage s'est monté comme du marketing, si je peux dire, que c'est une façon de renforcer la marque de la monarchie. Et je trouve aussi que la BBC fait partie de cette campagne de marketing sans réflexe critique. On ne se rendrait pas du tout compte que 20% de la population de la Grande-Bretagne est contre la monarchie. Selon les sondages, on ne se rendrait pas compte en regardant les infos. L'idée qu'on doit du respect à quelqu'un juste enfin, la seule raison, c'est l'hérédité. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit du respect à quelqu'un? Ça, j'ai jamais compris. Sûrement, ce sont les actions d'une personne qui commandent le respect. Autre chose, c'est une question d'argent. Nous vivons maintenant un moment vraiment difficile. Il y a des réductions de dépenses, il y a les pauvres qui vont souffrir. Je ne comprends pas pourquoi nous devons subventionner une famille. La reine, c'est une des personnes les plus riches du monde. Des gens qui veulent nous représenter n'ont rien à voir avec la vie d'une personne normale, du reste de la population.
Les idées républicaines sont portées encore. Il y a un journal important, le New Statesman, qui a été le lieu de la publication des manifestes républicains ou le lieu de la défense de la réforme constitutionnelle. Mais la date de la fin de cette vague, je disais tout à l'heure,
c'est l'accident. Ah oui, alors l'accident, ça, vous êtes surprenant. L'accident de Lady Di, 97.
Oui, parce que c'est le moment où s'inverse dans les sondages, par exemple, l'attitude de la population britannique à l'égard de la royauté. Donc, finalement, empathie très très forte avec la famille royale après ce qui est arrivé à la princesse Diana. Et on voit s'inverser véritablement les choses. C'est le moment aussi, c'est l'année 1997 où le Labour Party modernisé est enfin au pouvoir avec l'arrivée de Tony Blair. Et Tony Blair vient en quelque sorte à ravir à la couronne le côté people, en tous les cas, lui disputer.
Vous dites que le couple Cherry Blair, qui est républicaine, affiché, et Tony Blair, c'est l'équivalent people du couple royal d'autrefois.
En tous les cas, il y a une vraie concurrence. Un des arguments avancés pour défendre les monarchies constitutionnelles, c'est souvent l'idée selon laquelle cela permet d'avoir une politique plus sérieuse, qui ne serait pas bling-bling, qui ne serait pas people, on laisserait ça aux familles royales. Sauf qu'en Angleterre, ça a pu marcher, ça a pu être le cas, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. La politique britannique est, comme les autres, aux États-Unis, en France et ailleurs, devenue une politique très people.
Mais Elisabeth, elle a été contente de retrouver ce rôle discret. Balmoral, les modèles familiaux traditionnels de la classe moyenne.
Elle a certainement été très heureuse de sortir de ces anus horribilis, on peut les mettre au pluriel, qui ont vu les frasques régulières de la famille. On a vu l'histoire, évidemment, du prince Charles, ses histoires nombreuses, et jusqu'à ses enfants, d'ailleurs, et ses soirées de déguisement qui ont encore fait du bruit. Elle a cherché vraiment à faire profil bas, on peut dire, depuis la mort de Diana. Et ça marche, parce que dans la population, il semble que, au fond, on s'intéresse pas trop à la famille royale, mais elle ne dérange pas du tout, et donc on s'y oppose pas.
Le prince Philippe dit que la monarchie n'est jamais irremplaçable, qu'elle dépend de la réputation qu'elle a auprès de ses sujets. Là, c'est une réputation assez basse. Et néanmoins, on entend toujours des contestataires. Alors ça, c'est Billy Bragg. Vous allez guetter les paroles, et puis vous allez faire un commentaire surprenant pour finir cette émission, Sylvain Bourneau.
Take down the Union Jack. It clashes with the sunset. And put it in the attic with the Emperor's old clothes. When did it fall apart? Sometime in the 80s, when the great and the good gave way to the greedy and the mean.
Billy Bragg est un musicien très engagé. Il a été aux côtés des mineurs pendant la fameuse grève du début des années 80.
Il dit des choses
très critiques contre la reine. Et notamment, il s'était moqué du membre des Sex Pistols qui avait attaqué la reine. Et puis après, qui avait été converti, en quelque sorte, retourné par la reine. Mais à son tour, Billy Bragg, en 2007, lors du dernier jubilé, a eu l'occasion de croiser la reine au Royal Festival Hall. Et on peut s'interroger sur la capacité de la couronne, finalement, à récupérer en permanence la critique. On a besoin de nouvelles générations de musiciens en permanence pour inventer des chansons critiques sur la monarchie.
On n'y arrivera pas à la faire ressusciter durablement l'idée républicaine en Angleterre. Et puis j'annonce à nos auditeurs agacés que 2012, on remet le couvert, c'est le jubilé de diamant d'Elisabeth II, dont le règne, à ce moment-là, aura duré aussi longtemps que celui de la reine Victoria. Lundi, nous parlons de Cuba. Le règne de Castro, lui, s'est achevé. Comment le socialisme est-il venu à Cuba ?